Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h, l'heure de notre émission Une heure en Palestine, qui est programmée sur Radio Galère 88.4 tous les mercredis de 18h à 19h. Comme nous le disons chaque semaine, cette émission est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Et ce soir, c'est BDS Provence, le groupe local de la campagne BDS France, qui vous propose cette émission. Alors, BDS Provence a une page Facebook intitulée BDS Provence, sur laquelle vous trouvez des informations quotidiennes, des articles de fond. N'hésitez pas à nous y laisser un message en privé si vous avez des questions ou si vous désirez participer à nos actions. Nous avons vraiment besoin de militants et militantes qui ont envie de s'investir dans le soutien à la Palestine. La campagne BDS France a un site, c'est bdsfrance.org, avec de nombreuses informations également. Et nous avons aussi une boîte mail, bdsprovence@orange.fr. Alors ce soir, je vous propose d'écouter la première partie de l'enregistrement d'un débat, en fait plutôt d'une conversation, qui s'est tenue le jeudi 24 février sur Twitter, dans ce qu'on appelle un space. Un space, c'est un espace qui permet d'avoir des conversations audio en direct sur Twitter. Ces espaces sont publics, tout le monde peut les rejoindre en tant qu'auditeur, y compris les personnes qui n'ont pas de compte Twitter. Il suffit d'avoir le lien qui permet de se connecter, et ce lien, vous pouvez le recevoir par mail ou en message par SMS, voilà. Alors, la conversation que vous allez entendre, le sujet en était Salah Amouri, illustration d'un nettoyage ethnique en cours. Alors, je précise que cette conversation s'est tenue avant la nouvelle arrestation de Salah Amouri. En effet, Salah a de nouveau été arrêté le 7 mars et il est emprisonné en Israël. Il est en détention administrative, c'est-à-dire sans chef d'inculpation, sans motif précisé, sans procès. Dans un premier temps, il a été condamné à 4 mois de détention administrative, puis quelques jours plus tard, la condamnation a été réduite à 3 mois, sans aucune explication. Alors, dans cette conversation, nous avons deux intervenants. Il s'agit de Elsa Lefort, qui est l'épouse de Salah Amouri, donc il va vraiment vous expliquer ce qui se passe pour Salah, avant cette nouvelle intervention, je le redis. Et nous avons également Thomas Vescovi, qui est un chercheur indépendant en histoire contemporaine et que nous connaissons bien pour l'avoir reçu au mois de janvier à Aix-en-Provence pour une conférence que nous avons d'ailleurs passée ici dans le cadre de cette émission. Alors l'animatrice de cette conversation, c'est notre camarade Moinira de BDS Saint-Étienne. Donc je vais vous laisser écouter cette émission qui va nous amener jusqu'à la fin, jusqu'à 19h, jusqu'à la fin d'une heure en Palestine. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne écoute et une très belle soirée. Au revoir.
Alors Elsa, tu es l'épouse de Salah Amouri et tu es la porte-parole de son comité de soutien. La personne qui va nous rejoindre, c'est Thomas Vescovi, qui est historien et auteur de plusieurs livres sur la Palestine et Israël. Donc on va commencer par toi, Elsa, si tu veux commencer à nous présenter la situation de Salah et expliquer un peu, même pour des personnes qui connaîtraient pas du tout son histoire.
D'accord, ben, écoutez, déjà je vous remercie, merci à BDS pour l'invitation. Je vais comme tu le dis, je m'excuse par avance pour ceux qui connaissent aussi bien Salah et la situation en Palestine, mais je vais faire comme si on parlait aussi avec des gens qui me connaissent bien pour que personne ne soit perdu. Effectivement, Salah Amouri, il est avocat, il est franco-palestinien. En réalité, il n'a pas la nationalité palestinienne. Comme tu l'as dit, il est jérusalémite. Les jérusalémites ont un statut particulier, en tout cas les palestiniens jérusalémites, c'est-à-dire qu'ils ont une carte de résidence dans leur propre pays. Enfin, ils sont résidents, ils sont considérés comme résidents dans leur propre pays. Et c'est une carte de résidence qui est attribuée par les autorités israéliennes. Et pour que... ils obtiennent cette carte et qu'ils la conservent, il y a énormément de critères. Le principal critère, c'est d'habiter à Jérusalem, d'y vivre, donc de prouver qu'on y vit, donc avec des factures, avec des quittances de loyer, avec les inscriptions des gamins à l'école, etc. Donc ça, c'est le premier critère. Il faut du coup pas comment dire pas s'éloigner plus de 7 ans en fait qui sont fournis notamment pour les gens qui souhaitent étudier à l'étranger voilà et du coup c'est un statut qui est assez précaire puisque ça contraint énormément les Palestiniens de Jérusalem ça les contraint ils sont obligés d'habiter à Jérusalem, ce qui est rendu de plus en plus difficile par les autorités israéliennes parce que côté palestinien, les taxes ne cessent d'augmenter. Donc c'est un vrai gouffre financier pour les Palestiniens. Ça va sans dire que du côté dans les quartiers palestiniens, les services publics sont vraiment assurés au minimum. Malgré ces taxes très élevées. Voilà, ils sont contraints d'y habiter. Donc, c'est une contrainte parce que chacun peut avoir des projets dans sa vie, notamment d'étudier, d'aller vivre ailleurs ou d'aimer quelqu'un qui n'a pas ce statut. Donc, pour rappel, les Palestiniens. Donc, il y a les Jérusalémites, il y a les Palestiniens qui ont des ID palestiniennes ou qui vivent en Cisjordanie, il y a les Palestiniens de Gaza et il y a les Palestiniens qui vivent dans les territoires de 48, donc qui ont une carte d'identité israélienne. Donc ça complique la vie des Palestiniens de Jérusalem et tout est fait pour leur compliquer la vie dans le but de les faire partir. Puisqu'il y a un véritable enjeu à Jérusalem, puisque les Israéliens la considèrent comme étant leur capitale. Ils voudraient que la balance démographique soit en leur faveur dans cette ville. Donc tout est fait pour que les Palestiniens soient mis en minorité. Alors concernant Salah Hamouri, le harcèlement a commencé il y a plus de 20 ans. Il avait 16 ans quand il a été arrêté la première fois. Il a été arrêté pour accusé de militantisme étudiant, pour distribution de tracts. Voilà, donc il avait été quelques mois en détention à l'époque. Ensuite, à l'âge de 19 ans, il a été arrêté. Là, c'était sa plus longue incarcération puisqu'elle a duré 7 ans. Donc il avait été accusé d'avoir... comploter l'assassinat d'un rabbin, dirigeant politique du parti du Chas, donc un parti d'extrême droite israélien qui n'a pas été assassiné par personne d'ailleurs. Il a toujours réfuté les accusations, suivant les conseils de son avocate, il a plaidé coupable. Enfin, elle a plaidé coupable. Dans le seul but, et tous les Palestiniens font ça, de se voir réduire sa peine. Donc c'était en fait au choix, vous plaidez coupable, vous faites 7 ans en prison, et vous plaidez non coupable et vous en faites 14. Donc le choix est vite vu. Il a fait à peu près 7 ans de prison à l'époque. Il a été libéré dans l'échange de prisonniers palestiniens, donc plus de 1000 prisonniers palestiniens qui ont été libérés en 2011 contre le soldat franco-israélien Gilad Shalit, qui avait été capturé à Gaza. Donc il faut savoir qu'à l'époque, comme Salah, sa maman est française, donc elle avait pendant sa détention contacté les autorités françaises, donc qui n'avaient pas bougé. Ensuite, elle a contacté les associations Solidarité avec la Palestine en France, et une première campagne, on va dire, parce que malheureusement, plus de 10 ans après, on est toujours dans des campagnes pour Salah Hamouri. Une première campagne avait vu le jour, et il avait pu, grâce à une intervention timide et tardive de la France, du coup figurer sur la liste des prisonniers qui ont été libérés contre le soldat franco-israélien. Voilà, ça a été sa plus longue détention. Mais l'acharnement s'est pas arrêté là. Ensuite, il a comment dire, Il a eu des ordres militaires qui lui ont été remis. Donc un jour, on vous appelle, on vous demande de passer au poste de police et d'interrogatoire, et on vous donne un ordre militaire comme ça, sans aucune raison. Donc tout le temps, le motif, c'est pour des raisons sécuritaires, pour la sécurité de l'État et des citoyens israéliens. Donc cet ordre militaire, au motif du respect de la sécurité d'Israël, c'est qu'il n'avait plus le droit d'aller en Cisjordanie. Donc c'est un peu, comment dire, un peu loufoque, parce que du coup, on protège les citoyens israéliens en l'interdisant d'aller là où les citoyens israéliens ne sont pas censés être. Voilà, mais le but premier, c'était surtout de l'empêcher d'aller à l'université, puisque en sortant de prison, il a entrepris des études de droit pour devenir avocat. Donc là, il ne pouvait plus aller étudier. Alors bon, c'est mal connaître la résilience palestinienne et l'obstination palestinienne, parce que du coup, il y a une organisation, les professeurs lui ont envoyé les cours, ils ont fait des cours en visio, etc., etc., et il a pu mener à bien son cursus. Voilà, donc ça, c'était après sa libération. En 2014, eh bien, nous sommes mariés. Donc, comme moi, je suis française, j'habitais à Jérusalem avec lui, mais du coup, il fallait faire une procédure de réunification familiale, comme n'importe quelle personne étrangère qui se marie avec quelqu'un qui réside dans son pays. Donc ça a été la croix et la bannière, mais alors ça, c'est pas propre au cas de Salah Hamouri en tant qu'ancien prisonnier. C'est vraiment la croix et la bannière pour tout et toutes les conjoints de Palestiniens qui demandent à faire cette procédure de réunification familiale. Et je pense que Thomas nous en parlera plus en détail après.
Ouais, je vais essayer au fur et à mesure de mettre un peu des liens. Donc là, j'ai affiché l'infographie de la plateforme des ONG pour la Palestine sur le statut de résident à Jérusalem. Donc vous n'hésitez pas à le consulter. Et là, pendant que je t'écoute parler, je vais afficher d'autres choses en lien avec ce que tu dis.
Ok.
Je te laisse continuer.
Oui. Voilà, du coup, notre procédure de réunification familiale était en cours. Moi, j'ai eu une période où j'étais là-bas sans papier, et puis j'ai réussi à obtenir un visa parce que je travaillais pour un centre de recherche qui est affilié au consulat de France à Jérusalem. Et à l'occasion de... Je suis venue en France pour quelques jours, et quand je suis rentrée donc chez moi, et bien à l'aéroport à Tel Aviv... J'ai été arrêtée, mise en détention 3 jours et expulsée vers la France avec une interdiction d'entrée en Israël. Voilà. À l'époque, j'étais enceinte de 6 mois, mais a priori, j'étais considérée comme étant un danger, moi aussi, pour la sécurité de l'État d'Israël. Voilà. Donc, bon, bien sûr, ça c'était un prétexte fallacieux. Le véritable but, c'était de toucher Salah Hamouri en expulsant sa femme et son enfant à naître et en le contraignant à faire un choix, en fait, un choix cruel et inhumain qui est proposé à, enfin, voilà, n'importe quel père ne peut pas choisir entre son pays et sa famille. Donc voilà, ça a été un autre moyen de pression encore, mais comme ça suffisait pas visiblement, les aventures ont continué. Donc je me perds un peu dans les dates, mais en 2017, quelques jours avant sa visite en France pour nous rendre visite, Salah a été arrêté en pleine nuit, et il a été incarcéré pendant 13 mois. Donc 13 mois en détention administrative. La détention administrative, c'est une espèce de garde à vue XXL, c'est-à-dire que ça permet à Israël d'incarcérer les Palestiniens sans charge ni jugement pendant des durées. Alors la durée initiale pour cela, elle était 6 mois, et puis au bout de 6 mois, elle a été renouvelée Et tout ça, ça a été renouvelé 3 fois, donc ça a duré 13 mois. C'est donc 13 mois de privation de liberté dans des conditions horribles. Faut savoir que l'incarcération des Palestiniens, c'est un véritable moyen de pression sur toute la société palestinienne, puisque et notamment avec cette procédure de détention administrative qui permet d'incarcérer n'importe qui sans avoir à fournir de motifs. On met tout ça toujours sous la même appellation la sécurité de l'État d'Israël, et puis voilà. Donc c'est vraiment utilisé pour tenter de casser les gens, puisque dès que vous êtes un peu engagé, dès que vous dénoncez l'occupation, il y a ce moyen de détention qui s'offre aux autorités israéliennes pour mettre en prison les Palestiniens. Et par exemple, actuellement, il y a 4500 prisonniers politiques palestiniens qui sont incarcérés dans les prisons israéliennes. Et sur ces 4500, il y en a 500 qui sont des détenus administratifs, donc qui sont sans charge, sans jugement. Et le plus dur dans ce mode d'incarcération, c'est surtout que vous connaissez pas la durée effective de votre peine, puisqu'elle peut être renouvelée sans cesse. Il y a des gens qui passent des années en détention administrative, donc tous les 6 mois, vous vous présentez à l'audience en espérant en sortir, et puis c'est un peu la grande loterie, quoi. Voilà. Donc, et ça, c'est une vraie torture psychologique pour les détenus, et bien sûr pour leur famille, pour leurs proches, puisque à chaque fois il y a toujours de l'espoir, et en fait vous pouvez vous baser sur rien, puisque le dossier est classé secret, les avocats n'ont même pas accès au dossier, donc les avocats défendent leurs clients sur la base d'aucune accusation. Donc c'est même assez grotesque, quoi, comme simulacre de justice. Donc voilà, ça a été une des, mais ça n'a pas été la dernière, le dernier harcèlement contre ça là est arrivé il y a un peu plus d'un an. Il a reçu toujours un ordre militaire qui l'informait que sa carte de résidence allait être résiliée sur ordre, sur demande du ministre. Voilà. Donc en somme, ça veut dire clairement que la demande est faite qu'il ne puisse plus résider à Jérusalem, puisque s'il a plus de carte de résident, il peut plus y résider. Mais pas uniquement à Jérusalem. En fait, il a plus d'existence légale ni dans ce qu'on appelle qui est appelé Israël, ni dans la Palestine. Donc en fait, ça équivaut à une expulsion définitive de son pays. Voilà. Donc ça fait donc un peu plus de, à peu près 2 ans que c'est en cours. Avec ses avocats, il use de nombreux recours Monira?
Oui, je suis là.
J'ai un petit problème technique, un enfant qui...
Pas de souci. Alors, je te laisse y aller, je vais interroger Thomas en attendant. Bonjour Thomas, merci de nous avoir rejoints.
Merci à vous pour l'invitation.
En attendant que Elsa revienne, donc elle avait commencé à présenter un peu la situation de Salah Hamouri, à faire un peu un historique il a été emprisonné depuis l'âge de 16 ans, et elle faisait un peu un historique. Et du coup, avec toi, on avait prévu un peu de faire un petit retour sur le rapport de Amnesty International, les réactions qui avaient été suscitées par le rapport. Est-ce que tu veux nous parler de ça?
On peut commencer par ça, après on verra s'il y a des questions et des volontés de rebondir sur d'autres choses. D'abord, il y a un point important quand vous parlez de la question de Salah Hamouri. Si on prend un peu de perspective, entre 1967 Et on va dire 2018, parce que je crois que le chiffre de 2020, on l'a pas. En tout cas, de 67 à 2018, c'est à peu près 15 000 Palestiniens qui ont perdu leur droit de résidence à Jérusalem-Est. C'est-à-dire, c'est pas un truc anecdotique, c'est 15 000 personnes. Il faut s'imaginer que parmi eux, il y a évidemment beaucoup de militants, de gens qui étaient engagés, qui ont perdu le droit de résider à leur droit de résidence à Jérusalem-Est. Donc, nécessairement, ça a un impact profond. La question du rapport d'Amnesty, je pense que pareil, il faut qu'on ait un petit historique, parce que l'offensive contre le rapport d'Amnesty actuellement, il est sans précédent par rapport aux autres rapports qui ont eu lieu précédemment. Je m'explique. En 2009, à ma connaissance, c'était la première fois qu'on voyait vraiment un rapport important parler d'apartheid en Palestine. C'était le rapport du Conseil de recherche en sciences humaines d'Afrique du Sud. Et après, ça a été progressif. On a eu en 2011 le tribunal Russell sur la Palestine qui a statué sur la question d'apartheid. Il faut se rappeler qu'en France, en 2012, il y avait eu un colloque organisé à Paris 8 qui a été annulé sur pression de différentes organisations qui s'appelait Israël, État d'apartheid. Ensuite, il y a eu tout un ensemble d'autres rapports qui sont venus compléter ça. Les Palestiniens eux-mêmes, en 2019, avaient établi un rapport avec 8 ONG pour dire qu'effectivement, il y a un statut d'apartheid. Puis en 2021, les rapports de B'Tselem et de Human Rights Watch. Et enfin en 2022, le rapport de Amnesty. Donc, l'offensive actuellement, elle porte sur le fait de vouloir cibler Amnesty. Vouloir cibler Amnesty d'abord en faisant croire qu'en gros Amnesty a pris cette décision un petit peu de manière unilatérale. Sauf que quand on prend tout l'historique, en fait ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il y a des ONG et des juristes qui se battent pour faire reconnaître la question de l'apartheid en Palestine. Là où Amnesty va peut-être un peu plus loin que les autres, j'ai l'impression, en tout cas c'est comme ça qu'on peut le percevoir, c'est qu'Amnesty dans son rapport revient carrément à 1948, à la question des réfugiés. C'est-à-dire qu'Amnesty en fait explique que la création d'Israël telle que ça s'est fait en 48 et l'expulsion des Palestiniens et leur impossibilité à revenir sur leur terre participe et entretient le statut d'apartheid. Je rappelle que l'apartheid, je vais pas faire non plus un cours de droit parce que j'avoue que je suis pas très bon en droit, mais si d'autres veulent le faire avec plaisir. Mais l'apartheid en tout cas, l'idée c'est que une population ou un groupe racial maintient sa domination sur un territoire. Donc une domination ethnique, une domination raciale. Et l'un des moyens de la domination, c'est la fragmentation. C'est-à-dire d'interdire à la population qu'on veut dominer de pouvoir se rassembler, se déplacer et de vivre comme elle l'entend. La question des Palestiniens là, elle est très claire. Ils sont fragmentés entre quatre zones principalement. La bande de Gaza, la Cisjordanie, les réfugiés, les Palestiniens qui vivent en Israël, et on pourrait même rajouter une cinquième effectivement avec le cas des Palestiniens de Jérusalem-Est dont Salah fait évidemment partie. Ce qui rend fou également un petit peu, et j'invite les gens s'ils veulent le faire à lire par exemple la tribune qu'a écrit Sami Cohen, qui est professeur à Sciences Po, dans le journal Le Monde il y a à peu près deux jours maintenant, qui est une offensive assez claire hein, contre le rapport d'Amnesty, qui va un peu dans le même sens que l'organisation La Paix Maintenant en France, hein, qui est traditionnelle de la gauche sioniste sur cette question, et qui en fait établissent un petit peu les deux mêmes choses. C'est-à-dire qu'effectivement, en Cisjordanie, la question d'apartheid peut être établie. Généralement, ils ne le nient pas parce que c'est tellement une évidence que voilà. Ce qui les embête vraiment, c'est la question d'Israël. C'est qu'il y aurait un apartheid en Israël même. Sauf que là encore, moi, ce qui me stupéfait quand on lit leur tribune et leur texte qu'ils ont publié, c'est à quel point ils font volontairement, et je dis bien volontairement, l'impasse sur tout un historique. C'est-à-dire que l'ONG Adala, qui est la principale ONG israélienne de défense des droits des Palestiniens, donc c'est des Palestiniens qui défendent les droits des habitants arabes, palestiniens en Israël, témoigne depuis des dizaines d'années maintenant qu'en Israël, il y a au moins une cinquantaine de lois qui organisent la domination de la population juive sur la population palestinienne. Ça, c'est établi. Donc, 50 lois, on est d'accord, c'est pas une petite discrimination. C'est un système organisé. Maintenant, évidemment, la situation en Israël n'est pas forcément... comment dire, on peut pas plaquer la question d'Afrique du Sud sur la question d'Israël. Il y a des différences évidentes, on est d'accord. C'est comme quand des gens font des parallèles entre la colonisation israélienne et la question de l'Algérie. Il y a des points communs, on ne peut pas non plus plaquer les deux. Et la question de l'apartheid ne le fait pas, de toute façon. Amnesty ou Human Rights Watch ou B'Tselem ne disent pas que c'est exactement qu'en Afrique du Sud. Il y a des différences, c'est juste un statut juridique qui varie. Et ce qui est stupéfait, en fait, c'est de vraiment de considérer que ils font l'impasse complètement sur cet historique-là, et ils refusent d'accepter des choses qui sont pourtant des évidences et que les rapports témoignent depuis des années. Alors, je ne sais pas si Elsa est revenue et elle souhaite reprendre la parole, ou alors je continue sur des exemples ou des... Elsa, est-ce que tu es revenue?
Oui, je suis revenue, mais vas-y.
Ok. En gros, si vous voulez un petit peu comprendre simplement, et même en termes d'argumentation, c'est important à savoir, vous pouvez évidemment lire le rapport d'Amnesty qui est complet. Il y a un résumé en français qui est très complet sur plein de points qui montrent l'apartheid en Israël. Moi, j'en vois trois qui sont pourtant symptomatiques et qui ne sont jamais abordés par les groupes que sont la Paix Maintenant, etc. Le premier, en fait, c'est que Israël sépare complètement la citoyenneté et la nationalité. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, quiconque en France obtient la nationalité française est automatiquement citoyen. Alors, il y a peut-être des différences et les juristes pourraient un petit peu parler de ça, mais en tout cas, concrètement, tu es citoyen français ou tu ne l'es pas. Il n'y a pas de demi-statut. En Israël, tu appartiens d'abord à un groupe national juif, groupe national arabe, etc. etc. Et l'appartenance à un groupe national en Israël conduit du coup à donner des droits de citoyen, mais qui varient. C'est-à-dire que si tu appartiens au groupe national juif, tu as l'ensemble des droits et des privilèges. Les autres, en revanche, n'ont pas tous les droits. Je me souviens d'un débat avec Sami Cohen à RFI, que vous pouvez retrouver, où la journaliste dit à Sami Cohen, et c'est intéressant, elle lui dit « Mais en Israël, il y a des discriminations. » Et Sami Cohen dit « Bah effectivement, les Palestiniens, il dit les Arabes israéliens, ne font pas service militaire, donc ils sont discriminés. » Et j'avais répondu, en fait, non, le problème, c'est justement qui a un service militaire et que le service militaire oblige à être fait pour pouvoir accéder à tous les droits. C'est ça le problème fondamental dans le pays. Et en fait, il n'acceptait pas cela. L'autre point important, c'est qu'Israël, dès sa création, en 50 puis 52, a mis en place deux lois, droit au retour et le droit à nationalité pour les populations juives, qui fait que n'importe quelle personne dans le monde qui arrive à justifier d'une judéité auprès du grand rabbinat d'Israël peut émigrer en Israël et obtenir l'ensemble des droits et des privilèges en tant que citoyen, alors qu'un Palestinien, et le cas de Salah par exemple est symptomatique, ne peut pas venir et habiter. Si tu n'es pas juif, si tu es par exemple le cousin ou demain un Palestinien d'Israël qui se marie avec une Palestinienne ailleurs dans le monde, ne peut pas la ramener en Israël et lui faire obtenir les droits de citoyen pleins et entiers. Ce n'est pas possible. Le troisième point, c'est la question foncière qui me paraît être fondamentale aussi. C'est qu'Israël, en fait, applique une règle très simple, c'est que 93% des terres appartiennent à des institutions israéliennes qui ont la charge de gérer le territoire. Ce territoire ne peut pas être vendu comme inaliénable aux non-juifs. Donc en gros, si tu n'es pas une personne qui est considérée par l'État d'Israël comme pouvant acheter une part du territoire, tu ne peux pas le faire. Dès lors, la question foncière est tellement fondamentale que pour les Palestiniens d'Israël, c'est un défi permanent. Je prends un exemple récent. Il y a une ville par exemple en Israël qui s'appelle Kfar Vardim, qui est une ville où on a construit un nouveau quartier entre 2015 et 2018. Et vous savez qu'au sein de la population palestinienne d'Israël, depuis à peu près 15 ans maintenant, se développe une vraie bourgeoisie assez importante, parce qu'ils ont accès à différents types de métiers. Les gens font des études, donc ils ont accès à des métiers. Et donc on a une communauté, disons bourgeoise, qui a voulu acheter des appartements. Ils ont commencé à acheter des appartements, il y a des appels d'offres, et au bout d'un moment, quand la ville s'est rendue compte qu'il y avait, selon elle, beaucoup trop d'Arabes qui achetaient des appartements, elle a stoppé la vente aux Arabes en considérant que la ville devait rester une ville juive. Comment on peut, après ça, estimer que non, il n'y a pas une situation d'apartheid? C'est pas parce qu'il y a Miss Israël qui est arabe ou un avançant de l'équipe nationale israélienne qui est arabe qu'on peut dire « Ah ben regardez, c'est formidable ». Et je conclurai juste sur ça, c'était assez drôle, peut-être certains l'ont vu passer. Récemment, Israël a nommé un poste de consul à Shanghai, il me semble, à Shanghai ou à Singapour, je m'excuse, j'ai plus en tête, je crois que c'est Shanghai, une arabe israélienne, donc une palestinienne d'Israël qui est militante du parti Meretz, donc parti de la gauche sioniste. Et la Paix Maintenant a fait un post Facebook et même sur Twitter en disant « Qui oserait parler d'apartheid après ça ?» Et en fait, en voyant ça, je dis « Mais est-ce qu'ils sont sérieux ?» Après 74 ans de combat et de lutte, la population palestinienne d'Israël, qui est devenue au passage citoyen israélien par la force des choses, sans l'avoir demandé en 48, 74 ans à se battre, ils obtiennent maintenant quelques postes décisionnels majeurs et il faudrait applaudir pour dire « Regardez, en fait, c'est pas l'apartheid. » Et en fait, c'est ça qui est stupéfiant, c'est qu'ils ciblent des points précis pour essayer d'éclipser tout le reste. Et ce long passif fait par les militants, les juristes, les ONG, pour démontrer qu'en fait, ben, si entre la Méditerranée et le fleuve Jourdain, il y a une situation d'apartheid qui n'est pas forcément applicable telle quelle comme il y avait en Afrique du Sud, mais qui est bien présente à différents niveaux. Et le cas de Salah Hamouri, en l'occurrence, illustre bien cette question de fragmentation et de volonté de décider à la place des Palestiniens de où ils peuvent vivre, avec qui ils peuvent vivre et jusqu'à quand ils peuvent vivre là.
Merci beaucoup, Thomas. J'ai épinglé un article que tu avais écrit dans Middle East High. Il est épinglé en haut, donc vous pouvez le consulter. Elsa, est-ce que tu veux reprendre la parole?
Oui, après j'étais à peu près arrivée à la fin de l'acharnement, enfin pour ce qu'on en connaît pour le moment, puisque on n'a pas de doute sur le fait que ça va continuer. Voilà, juste concrètement.
D'accord. Donc l'idée c'était de revenir sur la situation actuelle. Qu'est-ce que c'est?
Eh bien, actuellement, Salah, il a plus de résidence. Voilà, il habite toujours. Il habite à Jérusalem, et il faut savoir que nous, on habite dans un quartier. Enfin, moi, j'y habitais parce que je peux plus entrer à Jérusalem pour le moment, mais. C'est un quartier qui est situé du côté de la Cisjordanie, enfin du côté du mur en Cisjordanie, et c'est un quartier qui permet justement aux couples mixtes. Alors quand je dis couple mixte, c'est pas uniquement des Jérusalémites mariés à des étrangères, c'est aussi des Jérusalémites mariés à des personnes de Cisjordanie. Donc ça permet à ces couples mixtes de vivre là, tout en permettant à celui qui est de Jérusalem de conserver sa carte de résident, puisque du coup les impôts, les taxes, etc. Sont payés à la municipalité israélienne de Jérusalem. Donc actuellement Salah, il n'a pas le droit de passer un seul checkpoint, donc il n'a pas le droit de fait d'aller de l'autre côté du mur, donc à Jérusalem, ni en Israël. Il n'a pas le droit non plus du coup de circuler en Cisjordanie, puisque des checkpoints il y en a partout, et puis il y en a qui sont mobiles, qui sont volants, qui apparaissent du jour au lendemain. Donc voilà, il a pas le droit de passer de checkpoint, encore moins de passer des frontières. Enfin si, a priori il peut la passer, la frontière, mais ce serait un aller simple. Donc voilà, en attendant il a posé un... Il a fait appel à la Cour suprême, donc en attendant que cet appel soit traité, il est dans ce truc où il a pas le droit de faire grand chose, il a pas le droit d'aller au tribunal donc pour exercer son métier. Par ailleurs, donc lui il est avocat, mais il travaille pour une ONG qui s'appelle Abdamir et qui défend les prisonniers politiques palestiniens. Et cette ONG avec 5 autres ONG il y a quelques mois était criminalisé par Israël, donc leur action, leur champ d'action est complètement réduit, puisque ils sont déclarés illégaux en Cisjordanie, et donc à tout moment leurs locaux peuvent se faire perquisitionner. Bon, ça c'était le cas en dehors de cette criminalisation, hein, ça arrivait régulièrement, mais là c'est officiel, et surtout tous les membres de cette ONG peuvent se faire arrêter à tout moment, puisque donc ils appartiennent à une organisation déclarée illégale et dangereuse. Voilà, donc il en est là, donc il peut plus faire grand chose. Il a découvert à l'occasion d'un soin médical qu'il lui avait également retiré son assurance maladie, donc il peut plus non plus se soigner. Enfin, en tout cas, il doit payer pour se soigner. Voilà, c'est le comment dire, on va dire que le cercle se resserre autour de lui. Il peut plus faire grand chose. Il y a quelques mois, il a aussi il a fait partie il y a eu une dizaine d'acteurs de la société civile palestinienne qui ont découvert, enfin c'est pas eux qui ont découvert, mais une ONG a découvert qu'ils étaient du coup sous la surveillance rapprochée du logiciel espion Pegasus. Donc voilà, c'est l'acharnement est complet en fait. Il coche vraiment toutes les cases de l'acharnement, la prison, les restrictions de mouvement, les pressions du coup par sa famille en fait. Voilà, c'est une illustration en fait du nettoyage ethnique certes, mais aussi du quotidien de l'occupation, parce que on se représente souvent l'occupation avec un mur, le mur et les checkpoints, mais en fait l'occupation c'est vraiment quelque chose qui s'immisce dans le moindre détail de votre vie, votre droit à étudier, votre droit à travailler, votre droit à aimer, puisque du coup Thomas a parlé de cas voilà de regroupements familiaux quasiment impossibles. Mais du coup ça conditionne aussi les gens. Moi je connais des Palestiniens et des Palestiniennes de Jérusalem qui disent clairement, moi je pourrais pas épouser quelqu'un d'autre que quelqu'un qui a ce statut là parce que ça va être trop de problèmes dans ma vie. Alors un étranger, une étrangère, alors là c'est la ligne rouge, parce qu'ils savent que ça va être un moyen de pression sur eux formidable. Et même quelqu'un de Cisjordanie, ils savent que ça va être une galère. Les enfants qui naissent de ces unions, il est très difficile de les enregistrer. Donc ce sont des enfants qui n'ont pas d'existence légale. Voilà, ils sont pas enregistrés au motif qu'ils sont soit d'une mère de Cisjordanie, soit d'une mère étrangère. Et il y a pas mal de Françaises qui sont mariées à des Palestiniens. On fait souvent des actions groupées pour essayer de faire valoir nos droits et les droits de nos enfants en fait, puisque du coup voilà, la vie est rendue complètement difficile de par ces processus qui sont pas pour cibler une personne, là on parle de Salah Hamouri, mais des Salah Hamouri il y en a des milliers, et des fois ils sont pas forcément les gens qui sont touchés sont pas forcément des gens qui sont engagés politiquement. Donc c'est vraiment, le but est vraiment de vider Jérusalem et la Cisjordanie de ses habitants en utilisant tous les moyens qui sont à disposition. Voilà, ça va être la pression psychologique et ou alors financière aussi, parce que toutes les démarches que doivent faire toutes ces familles sont d'abord très longues, mais elles sont coûteuses, puisqu'il faut faire appel à des avocats, il faut des fois parfois payer des cautions pour passer la frontière. Enfin voilà, c'est sur plusieurs points en fait les autorités israéliennes tentent de mettre la pression sur les gens quoi.
Oui, peut-être voulais prendre la parole. Perrine, si tu as envie de prendre la parole pour poser une question ou faire une remarque, tu peux.
Perrine, tu peux intervenir ? Sinon, on continue et puis tu interviendras tout à l'heure.
Oui, pardon. Oui, je voulais juste rajouter une remarque. C'est que, en fait, tous ces Palestiniens sont emprisonnés et ils ne sont pas comptés dans les 4500 prisonniers dont parlait Elsa tout à l'heure, mais en fait ce sont vraiment des personnes qui sont complètement encadrées et emprisonnées dans un cadre restreint où ils ne peuvent pas vivre normalement. C'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment, je crois. Merci Elsa. Merci Thomas.
Alors justement sur la question de la séparation familiale dont tu parlais Elsa, j'ai épinglé le film 200 mètres qui raconte très bien l'histoire de familles comme ça qui sont séparées par alors qu'elles habitent toutes les deux en Palestine, hein, mais qui sont séparées par le mur et qui doivent avoir des permis, des autorisations pour aller de l'autre côté alors qu'ils vivent qu'à 200 mètres. Donc j'ai mis l'image du film si vous voulez consulter après. Vous pourrez avoir accès à tout ce que j'ai publié pendant le space. Thomas, est-ce que tu veux reprendre sur l'emprisonnement politique de masse et son rôle?
Ben, en fait, il y avait surtout un point qui me paraissait important à souligner, c'est Elsa a bien rappelé la question qu'en fait Salah, systématiquement, on lui indiquait que c'était pour des raisons de sécurité. En fait, il faut bien entendre que cette question de raison de sécurité, elle est permanente dans l'argumentaire israélien. On peut prendre deux exemples. Lorsque Israël, en octobre dernier, a placé 6 ONG palestiniennes, parmi les plus actives dans la défense des droits humains, sur la liste des groupes considérés comme terroristes, personne n'a jamais eu des preuves ou des éléments de ce que Israël a avancé. La question, ça a été de dire, en fait, c'est des raisons de sécurité, c'est secret défense. Et c'est tout. Et en fait, en Israël, il suffit de dire ça pour que le consensus, on va dire, militaro-nationaliste se range et considère que, bon, du coup, c'est normal, on fait confiance à l'armée, si vous voulez. Le deuxième point, c'est justement la fameuse question du regroupement familial. En fait, en 2003, Israël a fait voter sa première loi qui encadre le regroupement familial. C'est-à-dire que, c'est pas qu'avant c'était complètement libre, mais entre 67 et en gros les années 90, donc jusqu'à à peu près accord d'Oslo, il faut savoir que les Palestiniens pouvaient se déplacer relativement librement entre Cisjordanie, Israël et Gaza. Il n'y avait pas forcément comment dire, c'était pas non plus complètement libre, il y avait des petites restrictions, mais en gros t'avais beaucoup moins de contrôle, pas de barrage autant que maintenant. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'avec les accords d'Oslo et surtout avec la seconde intifada qui a complètement organisé la fameuse séparation que Israël a vendue comme étant un processus de paix, la séparation entre Palestiniens et Israéliens, et bien du coup on a essayé de réglementer tous les points de passage des populations. Donc le mur, les checkpoints, tout a été mis en place à ce moment-là pour essayer vraiment de fragmenter et de contrôler qui peut passer. C'est pour ça que certains géographes, par exemple, disent qu'en fait c'est faux de parler de séparation. Il faut parler d'un processus de filtration. C'est vraiment de filtration. C'est-à-dire que vraiment l'objectif, c'était de pour Israël de pouvoir gérer qui passe et qui ne passe pas. Parce que si on se sépare, c'était vraiment l'idée que personne ne passe. On se sépare et on se dit au revoir, on se verra plus entre guillemets quoi. Et en fait non, l'objectif c'était vraiment d'organiser un filtrage très clair de qui peut passer, qui ne peut pas passer. Et donc en 2003, la première loi sur le regroupement familial, c'est justement pour encadrer très précisément qui a le droit de se regrouper en termes de famille. Donc si tu te maries, si un Palestinien qui habite en Israël se marie avec quelqu'un de Jérusalem ou de Cisjordanie ou de Gaza, dans quel cas il a le droit ou pas de ramener sa famille? Bon, en réalité, c'est extrêmement compliqué, il faut avoir des passe-droits ou quoi pour le faire. Et ce qui s'est passé, c'est que la loi est renouvelée en fait régulièrement, et l'année dernière elle n'a pas réussi à être renouvelée pour une question, vous savez hein, qu'en Israël il y a eu des crises politiques à répétition depuis maintenant 4 ans, ils ont eu du mal à trouver un gouvernement, donc la loi n'a pas été revotée. Et donc là récemment, c'était assez intéressant parce que le rapport d'Amnesty est tombé et donc tollé total en Israël, hein, en Israël on dit que c'est un rapport antisémite etc, bref, et 48 heures après la publication du rapport, vous avez à la Knesset le vote de la loi sur la citoyenneté. Donc ils ont enfin réussi à le voter, à voter cette loi. Et c'était fou parce qu'en fait, il faut bien avoir en tête que Israël, face au rapport d'Amnesty, déclare c'est antisémite, c'est ridicule. Et 48 heures après, ils sont capables de voter la fameuse loi regroupement familial qui durcit. Hein. Faut savoir que cette loi, elle durcit encore plus le regroupement familial. Sans même évidemment prendre en considération le fait que vous justifiez totalement les rapports, c'est qu'en fait c'est bien une situation d'apartheid, puisque quiconque considéré comme juif en Israël ou dans les colonies peut se marier avec qui il veut, habiter où il veut, il n'y a pas de problème. Et dans le vote de la loi, vous avez peut-être vu, il y a eu au sein de ce qu'on appelle la gauche sioniste israélienne, un parti qui est le Meretz, qui est le parti considéré un peu comme le descendant du camp de la paix, un petit peu le parti, on va dire, de la gauche sioniste radicale, je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça autrement, c'est un peu particulier, qui lui, en fait, n'a pas voulu participer au vote et a considéré que cette loi était raciste. Bon, parenthèse, le Meretz est membre du gouvernement, donc c'est un peu particulier. Mais le parti travailliste, qui a été attaqué notamment sur les réseaux sociaux pour avoir voté la loi, qu'a déclaré la responsable du parti travailliste? Elle a déclaré « On a voté cette loi, même si elle était proposée par l'extrême droite, on a voté cette loi » parce que le Shin Bet, les services de renseignement intérieur d'Israël, nous ont dit que pour des raisons de sécurité, il fallait voter cette loi. Et en fait, c'est fou de voir qu'à chaque fois, systématiquement, tout ce qui est polémique, eh bien, on le met sur la question du droit de sécurité. Et si on revient même à la question du rapport d'apartheid, je ne sais pas si vous avez suivi, par exemple, les argumentaires qui sont sortis. On peut prendre en France le cas de l'UEJF, Union étudiants juifs de France, moi j'ai déjà eu parfois des relations et des rapports, et il y a des débats qui peuvent être construits, intéressants ou pas. Mais bref, là, leur argumentaire contre les rapports, notamment sur Amnesty, ils sont pitoyables parce que justement ils prennent en considération uniquement cette question de la sécurité. Je ne sais pas si certains ont regardé ça. En fait, ils disent dans les contre-argumentaires, ils disent en fait le rapport d'Amnesty parle de l'apartheid et ne prend jamais en considération le fait qu'on est en conflit avec une population et que c'est le conflit qui fait qu'on applique des règles qui aujourd'hui, en dérivant et en se dégradant, font qu'il y a une situation d'apartheid. Mais c'est bien parce qu'il y a un conflit à la base qu'on a appliqué tout ça. C'est pas parce qu'à l'origine on était un État qui ne pouvait pas faire autrement qu'appliquer toutes ces règles discriminantes qui fragmentent la population, qui les empêchent de vivre, etc. Et là, on est au cœur du problème, en fait. C'est leur incapacité totale à cette gauche sioniste et même à ce discours permanent de défense d'Israël, d'accepter et de reconnaître que ce n'est pas deux nations qui s'affrontent, mais c'est un processus, c'est une situation coloniale bien profonde, qu'on peut également aujourd'hui qualifier d'apartheid. Donc voilà, je voulais juste signaler ça sur la question du droit d'appliquer des règles particulières pour des raisons de sécurité. Ça, c'est vraiment l'argumentaire permanent et systématique d'Israël.
Oui, c'est ce qui permet d'appliquer des lois d'exception et de les faire perdurer dans le temps. Tu parlais aussi, Elsa, de Salah qui a été infecté par le logiciel espion Pegasus. Du coup, j'ai mis un petit article en lien aussi que vous pouvez lire avec l'information selon laquelle les autorités israéliennes ont infiltré les téléphones de 6 Palestiniens avec le logiciel espion. Ça a été l'objet d'une émission avec Jean Stern un petit peu la dernière fois, mais on a prévu de refaire une émission sur ça, sur les logiciels espions, l'industrie de la surveillance contre les Palestiniens, etc. En attendant, il y a l'article qui est affiché. Du coup, pour poursuivre, j'avais des questions sur le rôle de la prison, l'emprisonnement politique de masse dans la politique israélienne à l'encontre des Palestiniens. Elsa ou Thomas, comme vous voulez.
Ben, vas-y, Elsa, si tu veux peut-être continuer de témoigner sur ça.
Ouais, après, si t'as une question particulière ou tu veux qu'on parle de...
Non, c'était pour vous, quel est le rôle des emprisonnements des Palestiniens, en fait? À quoi ça sert, dans une société entière, d'avoir recours systématiquement aux emprisonnements dès l'enfance, parce que c'est à partir de 12 ans? À quoi ça sert, à votre avis, pour Israël? Et voilà.
Bah, moi, je pense que ça sert à tenter de passer, enfin, de rendre silencieux et de briser toute velléité de résistance à l'occupation, qu'elle soit, voilà, comme tu disais, les gamins qui jettent des pierres sur des soldats ou des colons. Que ce soit de ça ou que ce soit des militants politiques reconnus, voilà, mais il y a vraiment aucune limite. Enfin, en fait, en Palestine, toutes les familles, vraiment toutes les familles sans exception, sont touchées par la détention. C'est beaucoup les hommes, mais il y a aussi des femmes qui sont en détention. Voilà, ça structure vraiment, en fait, la société, parce que du coup ça crée de nombreuses familles, les familles, les enfants ont connu des perquisitions, des raids en général nocturnes, donc des événements assez traumatiques, notamment pour les gamins, et ensuite des détentions. Alors, il faut savoir que les prisonniers palestiniens sont détenus dans des prisons qui sont réservées aux prisonniers politiques. Ils ne sont pas mélangés avec les prisonniers de droit commun et pas mélangés avec les prisonniers de droit commun israélien. Donc ce sont des prisons qui sont toutes situées sur le territoire de ce qui s'appelle Israël. Donc ça donne aussi lieu à une pression sur les familles, parce que les familles qui sont de Cisjordanie, pour se rendre en Israël, ils ont besoin de permis. Donc Thomas en parlait de ce système de contrôle de déplacements. Donc voilà, ils vous font un permis pour aller visiter votre père, votre... Alors, les visites sont réservées aux parents de premier degré, donc ça limite quand même le nombre de personnes qui peuvent venir visiter les prisonniers et les prisonnières. Mais du coup, voilà, les personnes de Cisjordanie doivent obtenir un permis. Ensuite, concrètement, les jours de visite, il faut partir très tôt le matin. Ce sont des longs trajets. Les familles, et là je vous parle des familles, sont considérées comme des moins que rien. C'est humiliant pour les familles. Après, les visites sont très courtes, de 45 minutes à une heure maximum. Elles s'effectuent derrière une vitre, donc par des téléphones, donc qui sont potentiellement écoutés. Ces informations sont utilisées aussi pour mettre la pression sur les prisonniers, notamment tout ce qui va être les problèmes familiaux, les trucs un peu tabous, tout ce qui peut être un peu tabou aussi dans la société palestinienne, etc. Tout ça peut être utilisé pour soit pour mettre la pression sur les détenus, soit pour essayer de le faire parler sur d'autres personnes, etc., etc. Et au final, ça sépare vraiment les détenus. C'est le truc dont beaucoup témoignent quand ils sortent de prison, c'est que en fait, ils ont été éloignés physiquement de leur famille et de leurs amis, mais ils ont été aussi éloignés parce que, du coup, pendant les visites, vous parlez de la pluie, le beau temps, voilà. Vous restez sur des conversations très superficielles parce que vous savez que tout peut être utilisé contre vous, contre votre famille, contre le détenu. Donc ça les coupe de leurs proches, de leurs amis. Ça les coupe aussi de l'actualité parce qu'ils ont un accès très restreint aux informations. Alors après, eux, ils ont développé une grande solidarité. Ils s'organisent, ils se donnent des cours, c'est une vraie formation, un lieu de formation politique qui apparemment est très très puissant, parce que du coup c'est réellement fait pour contrer le but premier d'enfermer ces prisonniers. Eux, ils ont tourné ça en on est là, on est en prison, on est coupé des nôtres, mais par contre on va en faire quelque chose, quoi. On va pas passer nos journées à se lamenter, non, on va lire, on va discuter des bouquins qu'on a lus, on va en fonction des affinités politiques et ou religieuses, les gens lisent pas forcément les mêmes textes, mais en tout cas ils en font quelque chose, et il y a une grande solidarité, et c'est du coup le but premier de briser des gens et de faire en sorte que de leur faire passer l'envie de militer, de l'ouvrir. Je pense que pour ceux qui passent par les prisons, ça fonctionne pas. Par contre, ça peut clairement fonctionner sur ceux qui ne sont pas allés en prison mais qui voient ça de loin et qui se disent finalement, est-ce que vaut mieux pas que je file droit, que je me concentre sur ma famille, j'ai acheté un appart, j'ai un crédit, il y a des gens qui, à mon avis, ça a un vrai impact sur certaines personnes qui du coup se mettent en retrait, évitent de se mêler de la politique et se disent donc c'est vrai que ça a un véritable impact sur la capacité d'un peuple à résister et la capacité d'un peuple à se dresser contre une occupation.
Merci Elsa. Effectivement, on a souvent quand on a reçu des Palestiniens en France, leur témoignage c'était aussi que la prison ça avait été un lieu de formation politique et que vraiment ça les avait formés, ça les avait renforcés, ça leur avait permis de créer des liens, de comprendre, de prendre du recul bizarrement sur la situation de la Palestine et de comprendre beaucoup mieux en fait la situation qu'ils vivent. Et du coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce genre de témoignage aussi pour comprendre aussi comment ils résistent à ça. Quand on a préparé, Elsa, tu m'as parlé un petit peu du film de Raed Andoni sur la prison. Le film qui s'appelle Ghost Hunting.
Oui, effectivement. Alors, c'est un film qui est très particulier et qui... Il faut avoir un peu d'expérience et faut avoir quand même un peu le contexte parce que il est très romancé, enfin voilà, c'est pas un documentaire, c'est pas un film assez spécial, un univers cinématographique assez spécial, mais qui illustre la prison et il a été fait par Raed Andoni avec des prisonniers, enfin des anciens prisonniers, pardon, donc aussi bien pour l'écriture de son scénario, mais les acteurs sont des anciens prisonniers. Donc c'est particulièrement bouleversant à voir parce que moi je connais certains des acteurs et du coup c'est vrai que ça les a à la fois replongés dans cet univers carcéral et aussi en Palestine en fait les anciens prisonniers parlent très peu de leur expérience en général ils parlent des expériences des autres notamment en matière de torture. C'est très rare que quelqu'un vous dise ce que lui a vécu lors des interrogatoires. Par contre il a tout un tas d'anecdotes entre guillemets sur d'autres codétenus, anciens codétenus, etc. Ils ont très peu la possibilité de sortir tout leur trauma et ce film a été je pense une thérapie un peu pour ces acteurs qui sont des anciens prisonniers, voilà. Mais c'est vrai que c'est toute une société qui passe par la prison et aussi par les souffrances de la torture, qu'elle soit physique ou psychologique. Et y a très peu de psy. Alors je t'avais aussi fait référence au travail de la psychiatre Sama Jaber qui fait un boulot formidable et elle a écrit notamment, enfin il y a un bouquin qui s'appelle Derrière les fronts, donc ce sont des chroniques, elle reprend des cas de patients qu'elle a suivis et notamment des anciens prisonniers et avec tout le trauma que ça peut créer, notamment chez les jeunes en fait, elle explique que c'est un peu un cercle vicieux en fait parce que il y a la prison une première fois pour un jet de pierre ou rien du tout et en fait ils sont érigés en tant qu'héros dans la société palestinienne. Et ensuite, quand ils sortent de prison, ils doivent endosser la cape du héros, en fait. Ils doivent continuer, en fait, alors, c'est peut-être pas le cas tout le temps pour les plus jeunes, mais en tout cas, pour les moins jeunes, ils ont ce truc qui les suit. Ce truc de se dire, je dois rester engagé, je peux pas trahir, je peux pas, après toutes ces années de souffrance et ces années d'incarcération, je dois continuer. On attend moi pour moi, et puis aussi parce que la société attend que ça de moi, parce qu'il faut voir quand il y a un prisonnier, il y a beaucoup d'affiches à son effigie. Alors quand ils sont libérés, ça donne lieu à de grandes fêtes, parce que il y a beaucoup d'affiches à son effigie. Alors quand ils sont libérés, ça donne lieu à de grandes fêtes. Les Palestiniens savent mieux quiconque la valeur de la liberté et de l'absence de liberté. Donc dès qu'il y a une occasion de fêter une bonne nouvelle ou une liberté, c'est sûr que c'est assez assez énorme. Mais Le travail aussi de Sama Jaber est assez passionnant, notamment sur ces patients qui ont connu la détention.